Connexion littéraire, le podcast qui vous éclaire. Nous sommes Lise Gueb, Romain Anzel et Tristan Minguet de l'Institut Cardenne Lorraine à Tulle. Aujourd'hui, nous participons au podcast Connexion littéraire. Notre numéro s'intéresse aux fameux textes de Rousseau, Julie ou la nouvelle Héloïse, en particulier la lettre 62 de Claire à Julie. Vous ne le saviez peut-être pas, mais il s'agit ici d'un roman épistolaire. Savez-vous ce que c'est ? Cela concerne l'ensemble des pratiques liées à l'échange de lettres. Que le destinateur et destinataire soient réels et fictifs, ou que les lettres ont bien été expédiées ou non, c'est un espace d'échange et de dialogue supposant une double énonciation. Alors, intéressant, non ?
Jean-Jacques Rousseau est né le 28 juin 1712 à Genève. Sa mère, fille d'un pasteur protestant, meurt à sa naissance. Son père est maître horloger. Cet homme, passionné par la musique et travaillant comme un acharné, voyage dans toute l'Europe. Mais il estime qu'on ne reconnaît pas assez ses mérites, et ce sentiment alimente sa rancœur contre la société inégalitaire dans laquelle il vit. Des années plus tard, alors qu'il est admiré et reconnu, il s'isole, se brouille avec ses amis philosophes et quitte Paris pour la campagne. C'est dans cette retraite qu'il rédige en 1761 Julie ou la nouvelle Héloïse.
Les thèmes traités dans l'extrait qui nous occupe aujourd'hui sont les rapports entre la passion et la vertu, ainsi que les rapports entre les classes sociales. Pour cela, Rousseau met en place une double énonciation, c'est-à-dire qu'il fait passer son message à travers le personnage de Claire, qui, elle, écrit une lettre à sa cousine, Julie, une des protagonistes de ce roman. Avec ce style d'écriture, Rousseau souhaite s'adresser directement à l'élite cultivée du XVIIIe siècle. Son œuvre est d'ailleurs sous-titrée « Lettre de deux amants habitant une petite ville au pied des Alpes, recueillie et publiée par Jean-Jacques Rousseau ». Pourquoi a-t-il pris le soin de rajouter cela ? En présentant son œuvre ainsi, Rousseau lui confère une sorte d'authenticité très prisée du public à l'époque. Et même s'il n'est pas dupe, il a l'impression de pénétrer l'intimité des amants. Dans le texte, Milord Édouard et le père de Julie, Monsieur d'Étanges, tous les deux nobles échangent au sujet de la proposition de mariage de Saint-Preux, simple bourgeois, à Julie. Ces derniers s'aiment passionnément. Claire, témoin direct de la scène et confidente de Julie, fait parvenir à celle-ci leur discussion par lettre. Nous pouvons alors découvrir que les deux hommes ne partagent pas le même avis. Si Monsieur d'Étanges est contre ce mariage à cause de la classe sociale de Saint-Preux, et donc de la mésalliance que pourrait causer son union avec sa fille, Milord Édouard, quant à lui, défend Saint-Preux, car il est digne de Julie et apte à la rendre heureuse.
Ligne 25. Il est jeune, grand, bien fait, robuste, adroit. Il a de l'éducation, du sens, des mœurs, du courage. Il a l'esprit orné, l'âme saine. Que lui manque-t-il donc pour mériter votre aveu ? La fortune ? Il l'aura. Le tiers de mon bien suffit pour en faire le plus riche particulier du pays de Vaud. J'en donnerai s'il le faut jusqu'à la moitié. La noblesse ? Vaine prérogative dans un pays où elle est plus nuisible qu'utile.
Via cet argumentaire, Milord Édouard défend que Saint-Preux est un homme digne et que sa classe sociale n'y change rien. Il a la vraie noblesse, celle du cœur. En plus d'avoir tous les dons de la nature, il est grand, robuste, il a également les talents qu'il a acquis. Il a de l'éducation, du courage. Milord Édouard sous-entend tout au long que l'amour est la valeur la plus essentielle.
Ligne 44. Un homme d'honneur comme vous peut-il seulement penser que le dernier rejeton d'une famille illustre a éteindre ou dégradé son nom dans celui d'un quidam, sans asile et réduit à vivre d'aumône ?
Maintenant, en ce qui concerne l'argumentaire de Monsieur d'Étanges, il fait remarquer qu'une telle union salirait sa famille et que Saint-Preux n'est qu'un simple roturier. C'est d'ailleurs ses seuls arguments qu'il répète sans cesse et il attaque Milord Édouard en le dénigrant. Comme Claire est l'autrice de cette lettre, elle y exprime son interprétation de la situation.
Ligne 75. Conçois, ma chère, ce que je souffrais de voir cet honnête homme nuire ainsi par une âpreté déplacée aux intérêts de l'ami qu'il voulait servir. En effet, ton père, irrité par tant d'invectives piquantes, quoique générales, se mit à les repousser par des personnalités. Il dit nettement à Milord Édouard que jamais homme de sa condition n'avait tenu les propos qui venaient de lui échapper.
Dans cet extrait, Claire démontre l'intention de Milord Édouard à défendre Saint-Preux en provoquant Monsieur d'Étanges.
Désormais, vous vous demandez peut-être quelles sont les valeurs défendues par Jean-Jacques Rousseau dans « Julie ou la nouvelle Héloïse ». Dans son œuvre, le philosophe des Lumières intervient via des notes de bas de page.
La noblesse qui s'acquiert à prix d'argent et qu'on achète avec des charges, tout ce que j'y vois plus honorable est le privilège de ne pas être pendu.
Dans celle-ci, il laisse entendre qu'il est plus honorable de ne pas être pendu que d'être une noblesse corrompue. En intervenant ainsi, il montre son mépris pour cette noblesse qui bénéficie de privilèges, lui, qui éprouve de la rancœur pour cette société inégalitaire. C'est d'ailleurs le personnage de Saint-Preux qui porte sa voix dans ce roman. En effet, il le défend parce qu'il possède toutes les vertus, mais on lui refuse son amour avec Julie car il n'est pas noble. En affirmant que la noblesse est plus nuisible qu'utile, Rousseau a alors failli s'attirer les foudres de la censure. De plus, il démontre que le mariage entre différentes classes sociales est peu accepté dans la société du XVIIIe. Mais est-ce que les valeurs défendues par Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle sont encore d'actualité au XXIe siècle? Oui, évidemment. On peut déjà parler de l'inégalité de richesse et de privilèges qui est cruellement présente dans notre monde actuel. Pendant que Jeff Bezos, le deuxième homme le plus riche de la planète, s'envolait dans l'espace avec ses amis en juillet 2021, des millions de personnes mouraient parce qu'elles ne pouvaient pas se faire vacciner ou acheter de la nourriture. En effet, l'année dernière, 14 000 personnes sont mortes de faim chaque jour. Dans le même temps, la fortune de 2755 milliardaires a davantage augmenté pendant la pandémie qu'au cours des 14 dernières années. De plus, on ne peut pas nier que la richesse procure de nombreux privilèges de nos jours.
En 25 ans, la part de la richesse mondiale possédée par les milliardaires a triplé. Aujourd'hui, les 10% les plus riches détiennent 76% de la richesse mondiale, alors que les 50% les plus pauvres n'en possèdent que 2%. Sur le podium de l'inégalité, l'Amérique latine, le Moyen-Orient et l'Afrique subsaharienne. Là-bas, les plus pauvres ont à peine 1% de tout ce qu'il y a à posséder.
De plus, le mariage entre différentes classes sociales n'est pas encore accepté dans des pays non occidentaux, comme l'Inde par exemple. En effet, la plupart des familles indiennes préfèrent encore les mariages arrangés dans le cadre de leur religion et de leur caste. Les mariages en dehors de ces frontières rigides ont souvent eu des conséquences violentes, notamment des homicides. Mais certains jeunes indiens sont toujours prêts à défier leur famille et leur communauté par amour comme Saint-Preux et Julie. Vous réalisez donc que les valeurs dénoncées par le philosophe des Lumières au XVIIIe siècle sont malheureusement encore d'actualité.
Finalement, dans Julie ou la Nouvelle et Louise, c'est la société inégalitaire et la noblesse privilégiée au XVIIIe siècle que Rousseau dénonce. De ce fait, il démontre l'absurdité de ses principes. Même en étant beau, grand, fort, cultivé et courageux, si nous n'appartenons pas à la noblesse, nous n'avons aucune valeur à leurs yeux. Connexion littéraire, le podcast qui vous éclaire.